physicien, loin d'être mobilisable, il faut du temps et de la recherche. Et comme je m'étais dit au moment où je rédigeais ma thèse, bien que la physique soit mon premier amour, je ne vais pas, pour faire simple, décrypter le monde en résolvant des équations mathématiques. Donc je m'étais inscrit d'abord en philosophie. Et quand mon père fut recteur de la Grande Mosquée de Paris, ben forcément dans la famille, le glissement vers les questions théologiques s'est fait quasi naturellement. Voilà. Toujours dans ces préliminaires, je n'ai aucune gloriole de prendre position. Je suis même atterré de la vacance du terrain et de la frilosité, ce que j'ai appelé même par moments la pusillanimité ou la frilosité, voire la lâcheté dans certains cas des hiérarques musulmans de nos jours. Mais ça, c'est un autre débat. On l'abordera peut-être enfin, quand vous voulez. Du point de vue du format de ce soir, il est 19h36, j'ai cru comprendre qu'on arrêterait vers 21h, passé, je ne sais pas, c'est à quelle heure, Xavier ?
Alors, officiellement, l'arrêt est à 21h06, puisqu'on commence à 19h36, voilà, mais
d'accord.
Avec une heure d'intervention, c'est pas comme tu veux.
Non, donc, 3 quarts d'heure, 50 minutes d'intervention, et vous laissez le temps de revenir sur tel ou tel aspect, parce qu'il faut privilégier le débat et les questions-réponses. Oui, je ne sais pas si ce que je dis est pertinent, mais je l'assume totalement. D'ailleurs, un mot sur l'expert ou le spécialiste. Par définition, le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien, par définition. On le dit aussi pour les experts. Prenez ce que je vais vous raconter comme une quatrième de couverture d'un ouvrage en plusieurs volumes à lire plus tard ou ailleurs, parce que c'est à la fois très dense, très schématique, surtout d'une question aussi épineuse que la question islamique de nos jours, aussi bien dans notre pays que de par le monde. Dans notre pays, nous l'avons éprouvé avec affliction et épouvante, lors de l'annus horribilis qui vient de s'écouler, et de par le monde, c'est devenu une question centrale, cruciale, au centre d'enjeux nationaux et internationaux. Alors je parle de questions islamiques comme on parlait de la question d'Orient, au début du siècle écoulé aussi, c'est pour dire qu'elle est vraiment épineuse. Et ces questions de terrorisme, de violence, de réelles problématiques, civilisationnelles même, sont complexes. Et quand on dit, ou quand on convoque le mot complexe, de deux choses l'une, ou on a envie de se défausser et on dit complexe et on passe à autre chose, ou il faut se coltiner l'explication de ce qui est complexe et démêler les chevaux. Et de ces questions-là, on a plusieurs strates, une sédimentation de lecture. Il y a une approche sociale, voire sociologisante, il y a une approche politique, une autre géostratégique, une lecture psychanalytique, une autre millénariste, nihiliste, apocalyptique et théologique. Chacune de ces lectures a sa pertinence propre, mais aucune n'épuise à elle seule le sujet. Donc il faut avoir plutôt une vision globale, panoptique des faits, et de tout cela, donc il faut de la distanciation, de la froideur d'esprit, de l'analyse, de la connaissance, et sortir du panurgisme émotionnel pour essayer de comprendre. Et qui dit comprendre ne dit jamais admettre, contrairement à ce qu'a voulu signifier notre cher Premier ministre, et qui dit expliquer ne dit jamais justifier, et analyser n'est pas excuser, au contraire. C'est d'essayer d'anticiper et d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, si vous pardonnez l'anglicisme, what went wrong, comme on dit, qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation. Et donc, c'est bien que dans une institution telle que l'IHUMR, il y ait ces approches qui donnent place à plus de hauteur de vue, parce que nous pâtissons désormais de la défaite de la pensée, de l'abdication de la raison, de la démission de l'esprit, de l'abrasement de la réflexion et de la négation de l'intelligence. Vous voyez bien que je suis sévère en disant cela, Donc, si on laisse place un peu à plus d'intelligence, à plus de, encore une fois, de froideur d'esprit à ces questions, nous gagnerions en discernement et en lucidité. Bon, alors, les fondements de l'islam. Un mot sur l'étymologie du vocable du mot islam, dont on ne sait même pas à quoi ça renvoie dans le tintamarre tumultueux de nos jours. Ça couvre une gamme de représentations et de signifiants qui vont depuis les logorées dégénérées d'Al-Qaïda et la figure désormais mythologisée de Ben Laden, et ça va crescendo ou décrescendo jusqu'à ce qu'il est intériorisé dans les cœurs par les soufis, par la mystique. Et entre les deux, il y a peut-être une tradition religieuse qui a sous-tendu une civilisation impériale, à l'architecture palatiale, et les palais sont l'Alcazar, Topkapı, l'Alhambra, le Taj Mahal et d'autres. Et on ne peut pas arriver à cela s'il n'y avait pas un humanisme d'expression arabe en contexte islamique qui a prévalu. Sauf qu'il est oblitéré, effacé des mémoires, totalement ignoré et occulté. Et il ne s'agit pas de le réactualiser tel quel, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est de dire qu'à un moment donné, il a pu exister. Et quand je dis humanisme d'expression arabe, on pouvait être zoroastrien, juif, chrétien, musulman, on s'exprimait en langue arabe et on était dans une vision du souci de l'homme et une émergence d'un sujet humain dont on avait à cœur le respect de sa dignité, dont on avait à cœur le respect, j'allais dire, de son intégralité physique et morale. Alors, le mot islam, contrairement à ce qu'on dit, de mon point de vue, stupidement et abusivement, ce n'est pas soumission. Et pour la simple raison que, par exemple, la fiction littéraire de Houellebecq, qui s'appelle « Soumission », traduite en langue arabe, on ne l'avait pas traduite par « islam ». À juste raison, parce que le mot « soumission » rendu en langue arabe, ce n'est jamais « islam ». C'est curieux, cette stricte synonymie qui ne va pas dans les deux sens. On apprend en mathématiques qu'une stricte synonymie, c'est l'équivalent d'une bijection ou d'un isomorphisme. Donc si le mot arabe islam renvoie en français à soumission, ça sous-entend que le mot soumission en français doit renvoyer en langue arabe au mot islam, et ce n'est pas le cas. Donc il y a là un abus de traduction qui a corroboré longtemps l'idée du fatalisme, ce fameux fatum mahométan qui faisait horreur à Leibniz, c'est-à-dire une soumission maladive, pathologique, résignée, morose, etc. Le fameux mektoub du musulman fataliste. Mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas avoir mot pour mot. La racine trilitaire qu'on peut avoir en hébreu ou en arabe, en l'espèce SLM, le salam arabe donne l'équivalent du shalom hébreu, renvoie à une notion, surtout dans sa racine trinitaire SNM, à une notion de paix et de salut. Salut au sens être sauvé. Et quand on ajoute le I, il y a une idée d'entrer en la matière, entrer dans. Nos auteurs latins auraient dit in medias res, on rentre dans le telle chose. Et le « i » donne l'idée d'une entrée dans la paix et dans le salut, tout simplement. Donc, alors, s'islamiser serait, du point de vue purement étymologique, entrer dans la paix. Au niveau étymologique, rien d'autre. Je ne parle pas d'une présentation, d'une explication, si je puis dire, technique. Ce que serait le mahométanisme, pour parler comme les turqueries de Molière. Je parle du mot en tant que tel. C'est un abandon paisible et spontané dans un acte libre, en être libre. ce serait une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix à. C'est une allégeance voulue comme telle, librement. Voilà quelques définitions du mot du point de vue de la stricte approche sémantique. Alors, maintenant du point de vue, j'allais dire, théologique et spirituel. Tout homme et toute femme qui se remet à Dieu fait acte d'islam. Entendons-nous bien tout de suite, je ne suis pas en train de dire que les juifs ou les chrétiens, en se remettant à Dieu, ils sont des musulmans. Mais spirituellement, ils le sont. C'est pour ça qu'Abraham est désigné coraniquement comme étant le premier musulman. Celui qui a consenti à offrir son fils en holocauste à Dieu. D'ailleurs, qui n'est pas nommé. Celui qui a accepté de se conformer à la volonté divine de sacrifier son fils. Enfin, un sacrifice, non sacrifice, avec les tribunaux. Et c'est pour ça que les apôtres, ou Marie, ou Jésus, au détour de telle ou telle phrase ou explication, font preuve d'islam en se remettant à Dieu ou en reconnaissant l'unicité de Dieu et à laquelle on reconnaît et à qui on reconnaît une seigneurie. Bon, voilà une autre définition à la fois théologique et spirituelle. Et la théologie, en dehors de sa propre étymologie qui est discourir sur le divin, ou tenir un logos sur Dieu, ou étudier ce qui se rapporte à Dieu, c'est aussi l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. C'est d'ailleurs une des meilleures définitions de ce qu'est-ce que c'est que faire de la théologie. C'est essayer de comprendre ou rendre, essayer d'avoir une intelligibilité de ces mystères de la foi. Et en plus, tout ça est mis à l'épreuve du temps. Saint Anselme disait « Fides quares intellectum ». La foi toujours en quête d'intelligence. Sinon, c'est la dévotion, voire, et ça nous l'éprouvons chaque jour, une sorte de religiosité sauvage, crétinisante, malheureusement, ou qui laisse place uniquement à une normativité excessive, certains disent obèse, de plus en plus grosse, et qui ne laisse pas ni... ni à la respiration, ni à l'amour, ni à la bonté, ni à la miséricorde, ni à quoi que ce soit. Et donc les approches théologiques peuvent étudier toutes ces questions. Et ce soir, ce que nous essayons de faire, à mon avis, on essaiera de s'extraire des considérations de foi, de croyance, et aborder ce sujet, le fondement de l'islam ou de la tradition religieuse islamique, presque d'un point de vue anthropologique ou un point de vue historiographique. Comme le temps s'écoule, du point de vue de la logique interne ou du point de vue de la cohérence interne de la théologie islamique, la tradition religieuse islamique ne se veut pas nouvelle. Ce n'est pas qu'un beau jour, en l'an 610, dans la péninsule arabique, il va y avoir l'émergence d'une religion nouvelle. Les non-musulmans ont le droit absolu de voir les choses autrement. Mais du point de vue, j'allais dire, ab intra, de l'intérieur, c'est tout simplement, d'où d'ailleurs une source de sérieuses querelles, et parfois le mot querelle est un doux euphémisme, entre, dans la relation triangulaire juif, chrétien et musulman, c'est que ce n'est pas une religion nouvelle, mais c'est une religion au mieux continuatrice, dans un prolongement naturel et propagatrice des commandements moraux de la Torah et des préceptes de l'Évangile. Au pire, elle rattrape un peu le tout, ce qui n'a pas été bien saisi ou fait avant. Donc c'est le retour, pour certains, au monothéisme vrai, je mettrai le mot vrai entre guillemets, parce qu'il se serait gauchi, de par la multiplication des différentes sectes, le mot n'est pas à prendre pas avec la charge émotionnelle de nos jours, notamment chrétiennes, dans la péninsule arabique. Il va y avoir, sans vouloir faire étalage d'une vaine érudition, les mariamites, les jacobites, les eutychidiens, les colliridiens, les docètes, les nestoriens, les monophysites, les arianistes, et tout ça, ça pullulait, même s'il n'y avait que quelques petits groupes parfois, dans la péninsule arabique au 7e siècle, tout particulièrement au 7e siècle, c'est la période qui nous intéresse, ou à la charnière 6e, 7e siècle. Donc il va y avoir une sorte de volonté de revenir au monothéisme abrahamique. Si le mot n'était pas connoté de nos jours, le monothéisme radical, ou le monothéisme premier, ou bien. Alors comment les choses... Tiens, là-dessus, je voudrais convoquer une double métaphore. Ce que j'appelle la métaphore des tables gigognes et la métaphore de l'œuvre de Monet. La métaphore des tables gigognes, c'est que dans cette vision-là, vision séquentielle de la révélation, celui qui parlerait le dernier aurait raison. Donc, notre ami Michel Serfati dit « Oui, mais vous considérez que les copies précédentes sont des brouillons et les musulmans ont la copie finale. » Oui, quelque part, il a raison d'appréhender les choses comme ça. Donc, dans cette première approche, ce que j'appelle la métaphore des tables gigognes, l'on insérerait le judaïsme dans le christianisme dans l'islam, ça serait la troisième table de ces tables-là, et dans la prétention islamique, c'est que, voilà, on parachève le tout, on coiffe le tout, notre prophète est le sceau de la prophétie, le sceau qui scelle. Sous-entendu qu'après lui, il n'y aura pas un autre prophète, ce qui n'est pas sans poser de sérieux problèmes avec les Baha'is maintenant. Et donc, voilà, il est venu avec la version ultime de la vérité, de la réalité de Dieu, que sais-je encore. Allégeant certaines interdictions, existant avant, réajustant ou réharmonisant d'autres autrement, etc. Et à cette métaphore, il y en a une autre que j'appelle l'œuvre de Monet quand il atteint la cathédrale de Rouen. Alors il fait une série de toiles. Quand il la peint, alors, quand il l'a peint, j'étais en train de parler d'une seconde métaphore qui est celle de l'œuvre de Monet, quand il a peint la cathédrale de Rouen. Quand il a peint le matin, elle n'a pas le même jeu d'ombre et de lumière quand il a peint l'après-midi. Alors, on n'en a pas la même impression, c'est le cas de le dire. Surtout si on voit les choses de loin. Là, mutatis mutandis, c'est comme si un bouddhiste, ou un shintoïste, ou un taoïste voyait les choses de loin. Donc, la réalité ultime, c'est plutôt l'être premier, Dieu, la réalité suprême. Et on a des manifestations du divin selon qui épousent les contingences des peuples récipiendaires. Donc il y a le peuple hébreu qui va recevoir la révélation, tout l'épisode du puissant ardent, l'étape de la loi, Dieu qui se manifeste, qui parle aux hommes. Ce même Dieu va se faire homme parmi les hommes, va s'incarner, il se fera humain, mortel parmi les mortels, et ce même Dieu se parlera aussi, et sa parole va être consignée, et elle sera écrite, consignée dans un ouvrage. À supposer que ces parallèles soient pertinents, on a d'un côté le même Verbe de Dieu qui va se faire chair, qui s'incarnera, et toujours ce même Verbe de Dieu, cette même parole qui s'inverbera, si je puis dire. Et si vous me pardonnez le néologisme. Bon, donc voilà. Pourquoi ? Parce qu'on se fonde sur un passage coranique. Et là, attention, attention, mille fois attention, il ne faut pas faire de l'exégèse sauvage, parce qu'il ne faut jamais extraire un verset hors contexte. C'est ce que font d'ailleurs les fondamentalistes. Et si on le fait, ne serait-ce que pour trouver des arguments qui militent dans le sens que nous souhaitons, même s'il s'agit de versets formidables, bienveillants, etc., encore au bord, sur le plan épistémologique, la méthode des fondamentalistes, qui, eux, extraient hors contexte tel ou tel passage, ils le brandissent. Il se trouve que ce sont des passages dits belligènes, ou de facture martiale, ou violents, ou que sais-je encore. Mais je le fais simplement par abus méthodologique ou à visée pédagogique. Il y a ce fameux verset, le verset 48 de la sourate 5, une sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre. C'est le verset qui dit « À chacun d'entre vous, nous avons donné une loi et une voie. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait, chercher à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes actions. Un jour, vous retournerez à Dieu, alors il vous éclairera au sujet de vos différences. » D'ailleurs, ce passage-là mérite à lui seul toute une exégèse, tout un commentaire, toute une présentation, etc. Mais les théologiens musulmans qui se fondent sur ce verset comprennent que l'omnipotence divine et son omniscience a fait en sorte qu'il y a une multiplicité de communautés ou de peuples, et chacune de ces communautés ou chacun de ces peuples-là a reçu à un moment donné ou à un autre à la révélation de Dieu, et une voie qui mène vers le divin ou vers la transcendance, et une loi qui régit ou qui balise les comportements à l'intérieur même de cette communauté. Et s'il devait avoir une quelconque rivalité, et pourquoi pas une émulation, c'est à celui qui se conforme en se référant à ses propres références scripturaires, ce qui colle le mieux, si je puis dire, à ce système de référence éthique, à celui qui allège le mieux le fardeau qui accable le dos de l'homme en détresse notamment, et qu'il n'y a pas lieu de se bagarrer ou de se quereller dès ici-bas, parce que cette diversité-là de culture, de langue de peau, d'orientation métaphysique, etc., toujours conformément à ce verset, relève en quelque sorte du mystère de Dieu, et on le saura pour ceux qui croient qu'il y a un au-delà annoncé comme meilleur et durable à ce moment-là. Bon, je ferme la parenthèse et j'arrête et la citation du verset et le commentaire que je viens d'en faire. Alors, comment ça s'est passé, tout cela, si je puis dire, techniquement ou physiquement ? Et il se trouve qu'il va y avoir un homme dont le prénom arabe, prononcé à l'arabe, c'est Mohammed, mais on peut le prononcer en mahomet, ça ne pose aucun problème, puisque les premiers à l'avoir corrompu le mot, ce sont les Turcs. Puisque les Turcs eux-mêmes ne pouvaient pas dire Mohammed, ils ont dit Mohammed, et puis ça, c'est venu comme ça. Donc l'idiotie de ceux qui disent « Ah oui, mais non, nous voudrions que vous prononciez le nom de notre prophète tel que les Arabes le prononcent » n'ont rien compris. Dans ce cas, il faut exiger de dire de Marseille, Marsilia, et d'Alger, Al-Jazair, etc. Bon, et de Jésus, Yassour, et que sais-je encore, et de Moïse, Moussa. Bien, vers 570, plus exactement, on ne le sait pas, entre 570 et 580, naît Mahomet ou Mohammed. Alors pourquoi on pense que c'est 570 ? Parce que ça a été concomitant avec l'année dite de l'éléphant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire de l'année de l'éléphant? Il se trouve que les Arabes, contrairement aux Égyptiens de l'autre côté de la Méditerranée, ou contrairement à ce moment-là, je parle de la fin du VIe siècle, et contrairement aux Grecs, ne tenaient pas un calendrier, n'avaient pas un décompte des années. Alors, ils parlaient de l'année de tel événement. Il fut un temps où ailleurs on parlait de l'année du typhus, ou l'année de la grippe espagnole, ou l'année de débarquement, que sais-je encore. Et à ce moment-là, il y avait un événement majeur qui était le vice-roi du Yémen, Abraha. Curieusement, c'est comme Abraham, sauf qu'il n'y a pas le M à la fin. Chez les grammairiens, on parle d'une apocope. Le M n'existe plus. Abraha, l'Abyssin, mais qui était un peu le vassal du Négus d'Abyssinie, dans un premier temps a construit ou a édifié une importante cathédrale à Sanaa pour détourner les pèlerins, parce que le pèlerinage à la Mecque existait, il sera réislamisé ou islamisé post-eventum, après coup, mais la demeure qu'on appelle la Kaaba, le terme arabe Kaaba veut dire cubique, rien d'autre. Enfin, ce n'est même pas un cube régulier, mais en tout cas un temple de forme cubique, vêtu de noir, dont on a enchâssé sur une des arêtes ce qu'on appelle la pierre noire, mais entre nous ce n'est qu'un débris de météorite, parce que pour la légende c'est que c'était blanc, parce qu'elle serait descendue du ciel. Et au fur et à mesure que les pèlerins venaient pleurer leurs péchés et implorer la mansuétude divine, elle se noircissait, puis de blanc, elle passe à noir, puisqu'elle a en quelque sorte capté, si je puis dire, les péchés des hommes. Et donc pour embellir ce temple, on a enchâssé donc ce débris de météorite. Mais c'est devenu un lieu de pèlerinage, de dévotion, d'activité cultuelle, mais avec un mélange de paganisme. Il y a un panthéon arabe au-dessus duquel il y a le dieu, Al-Ilah, et par attraction va donner Allah, ce qui sous-entend qu'Allah n'est que l'appellation arabe de la divinité uniquement, ce n'est pas le dieu des musulmans comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas une divinité mahométane, comme on le lisait dans les encyclopédies de prestige. C'est tout simplement le Dieu en langue arabe. Comme « o théos » en grec, « o » de l'article « théos » Dieu, le Dieu, puis en arabe « al-ilah », et puis le « i » a sauté, là aussi les grammairiens auraient parlé d'une aphérèse, le « i » saute, on fait une contraction entre l'article et le mot, et ça nous donne « Allah ». Et donc ce Dieu, le Dieu qui trône au-dessus, avait des divinités auxiliaires, filles même, dans certains cas, des déesses. Et donc, il y avait une sorte de paganisme, un polythéisme ambiant dans cette cité-république, une sorte de Babylonie, petite Babylonie, dans cette oasis qu'était la Mecque. Et donc, cet Abraha, d'ailleurs, ce n'est pas la peine de m'apesantir sur cette histoire, voit que on peut être très prolixe pour cette partie-là, voit que sa cathédrale, finalement, n'arrive plus à rivaliser avec ce temple, qui d'ailleurs n'est ni beau, ni bien orné, ni bien sculpté, et que les gens ne viennent pas. Et à côté du pèlerinage, ben, les hommes sont toujours ainsi. Il va y avoir une foire à la fois commerciale, mais aussi de joutes poétiques. Et donc, ce qui fait que c'est toujours l'événement dans toute la péninsule. Et à Sanaa, il n'y a pas grand-chose. C'est moi qui brode. Et puis, profitant d'un incident, donc il y aurait été une profanation de cette cathédrale, il viendra raser le temple, enfin le détruire totalement. Donc, il va y avoir une armée, une expédition. Et à la tête de cette expédition, il y avait un ou des éléphants. On ne sait pas s'il n'y en avait qu'un seul, mais ou plusieurs. Et là, les Mécois étaient terrorisés à l'idée de se battre contre un monstre avec une trompe comme ça, des défenses. Ils n'ont jamais vu cet animal. Et donc, ils ont appelé cette année-là l'année de l'éléphant. Miraculeusement, la dévotion populaire pense qu'il y avait une intervention divine. La rationalité de l'anthropologie du fait religieux pense qu'il y avait simplement une épidémie qui a décimé l'armée. Mais miraculeusement, cette armée va être stoppée. Le Coran se fait l'écho de cet événement en parlant d'une nuée d'oiseaux qui est venue lapider à coups de pierre la dite armée pour la décimer. Nous n'entrons pas dans les détails. Ce qui est important pour nous, c'est que cette année-là correspond à la naissance du nourrisson dont la mère et le grand-père, parce que le père mourra, la naissance de Mohammed est post-mortem par rapport à son père, Abdallah, ce qui sous-entend que Allah n'est pas une divinité mahométane, sinon son père ne serait pas appelé Abdallah, qui veut dire adorateur, serviteur de Dieu. C'est encore une fois le Théodore grec, ou le Théophile grec, c'est davantage le Théodore. Abdallah, c'est le Théodore. Donc du coup, c'est son grand-père et sa mère qui vont lui donner le prénom de Mohammed, c'est-à-dire le louer, ou le digne de louange, ou le glorifier. Étymologiquement, Mohammed veut dire le louer. Ce qui va donner plus tard une sérieuse querelle et controverse entre chrétiens et musulmans sur un passage dans l'évangile qui est le paraclet. Le paraclet, du grec parakletos, veut dire aussi le louer ou le digne de louange dans une de ses acceptions. Et donc la querelle va porter sur « Ah ben vous avez même dans vos écrits l'annonce du prophète de l'islam, mais vous ne vouliez pas le reconnaître. » Bon, d'accord. Le nourrisson va être confié à une nourrice du nom de Halima, un peu dans les faubourgs de la Mecque, pas dans la cité elle-même. C'est une tradition, on confie les enfants pour l'air pur, pour d'aller un peu dans le désert. Ça ne sous-entend pas que l'oasis est polluée, mais c'est une tradition de confier les nourrissons un peu en dehors de la ville. Vers l'âge de 6 ans, il va se retrouver orphelin de père et de mère, puisque sa mère Amina va décéder. Il va être à la charge exclusive de son grand-père, qui se trouve être aussi celui qui est détenteur de la clé du temple, de la demeure, à la Kaaba, à la demeure de Dieu. Donc il y avait pour ce clan-là, de la grande tribu du petit requin, pourquoi ce qu'on appelle la tribu Quraysh, le petit requin. Ce qui est curieux, parce que la Mecque est un peu loin de la mer Rouge, donc a priori, les Mécois, ou cette tribu-là, n'a pas vu les squales de la mer Rouge, a priori, mais peut-être c'est le cas. On pense que ce sont des gens durs en affaires, ce sont de redoutables négociants, et ce sont des commerçants rompus aux techniques à la fois du commerce et d'ailleurs se sont enrichis. La ville de la Mecque est une ville riche. Les Mécois s'habillaient de brocart parfois et habitaient des demeures pour la région et pour l'époque étaient somptueuses. Sauf que les Banu Hashim, donc la famille du prophète, de celui qui deviendra prophète plus tard, étaient plutôt le clan désargenté. Parce qu'eux, ils se sont occupés davantage des questions, je dirais, de prêtrise, si le mot est approprié, puisque son grand-père, en étant détenteur de la clé du temple, il a un prestige de type, comme ça aurait été les Kohanim, donc l'équivalent d'un Kohen. Vers 8 ans, c'est son grand-père qui décédera, il devient à la charge de son oncle Abou Talib. On passe très vite sur son enfance et sa jeunesse. curieusement et étonnamment, vers l'âge de 25 ans, il entre un peu moins, il entre dans le service d'une riche veuve, ce qui fait dire à certains qu'il va être l'employé d'une femme et que cette femme, ayant remarqué ses qualités, va lui proposer le mariage. Donc il épousera son employeur, qui le dépassait d'une quinzaine d'années. En réalité, 15 ans, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que s'il avait 25 ans et elle devait avoir une quarantaine d'années, ça poserait quelques petits problèmes quant aux enfants qu'ils vont avoir ensemble. Pour l'époque et pour l'espérance de vie. Peut-être qu'elle avait un peu moins, puisqu'il va avoir des filles et des fils avec elle. Très vite, là aussi, quand lui, il aura 40 ans, où il se rapproche de la quarantaine, donc on est en 610. Selon la version standard, parce que tout ça mérite d'être bien vu, bien soumis à l'approche historico-critique, et selon la version standard, il va être enclin à des retraites, type retraite spirituelle. Il va donc dans une grotte, dans les faubourgs aussi de la Mecque, pour méditer, pour se retirer du vacarme tumultueux du monde, en quelque sorte. Et c'est son épouse Khadija qui lui a amené à manger, qui lui donne sa pitance pour y aller, et il s'absente quelques jours. Il fait ça assez régulièrement. En termes techniques, on parle, c'est là où il commence à recevoir les signes, ou à percevoir les signes prodromiques. Les prodromes sont des avant-signes, ce sont des signes avant-coureurs. C'est donc quelques prodromes, quelques signes avant-coureurs de la prophétie. Et puis un beau jour, c'est là où il va y avoir ce qu'on appelle le saut périlleux de la foi, pour ceux qui y croient. C'est un beau jour, disons dans son approche minimaliste, parce qu'on a deux ou trois versions, mais dans l'approche la moins coûteuse en données irrationnelles, il entend une injonction qui lui dit « lis ». En réalité, le terme arabe, qui est d'origine syriaque, ce qui sous-entend que Dieu ne parle pas qu'arabe, donc l'injonction, l'ordre, c'est « lis ». Mais le mot est si polysémique et dense qu'il veut dire à la fois « lis, récite, prêche, proclame, diffuse » et dans une autre acception « rassemble et protège ». Donc le mot est très très dense et très polysémique. Ce n'est pas que de la lecture. « Iqra » qui va donner « Coran »,« Coran », c'est à la fois une récitation, une lecture, un prêche, une proclamation, une diffusion et une protection. Les qara'a, du syriaque qara'a, c'est une lecture faite à haute voix dans un office, dans une acception très restreinte. Mais tous les synonymes que je vous ai donnés en découlent aussi. Donc l'injonction qu'il entend, c'est « lit ». Et je brode un peu en faisant un peu de la métapsychologie à distance. Et il répond, au bout de deux ou trois fois, on imagine un peu terrifié, mais je ne sais pas lire. Donc il va y avoir tout le dogme du prophète analphabète qui ne savait pas lire, mais qui a reçu quand même la révélation de Dieu. Mais je ne sais pas lire. Et plus exactement, c'est pas « je ne sais pas lire », mais je ne fais pas partie de ceux qui savent lire. Ou plus exactement, je ne suis pas un liseur, pas un lecteur. Je ne suis pas un liseur. Je ne sais pas lire. Enfin, traduit en français par « je ne sais pas lire ». Et au bout de la troisième fois, il va y avoir ce que les musulmans croient être le début de la révélation coranique. Donc il va y avoir les cinq premiers versets de la sourate, pas une, mais sur 96, parce que le classement dans le corpus coranique n'est pas un classement chronologique, c'est un classement, curieusement, par ordre décroissant des sourates. Donc, en dehors de la préface invocatoire, la Fatiha l'ouvrante, qui, même pour certains, ce n'est qu'une prière. Donc, la sourate 2 est la plus longue et la 114e est la plus courte. La sourate 2 contient 286 versets et la sourate 114 n'en contient que 3. Tiens, pourquoi ce classement? Parce que les poètes arabes, dans leur recueil, classaient leurs odes ou leurs poèmes, aussi dans l'ordre décroissant, du nombre de versets, de vers. À ce moment-là, quand on a colligé, rassemblé, recensé tous les versets et toutes les sourates du Coran, on a adopté ce classement. Donc je reviens au tout premier verset, au pluriel. Lis au nom de ton Seigneur, celui qui a créé l'homme. Il l'a créé d'une adhérence ou d'un caillou de sang, selon les définitions ou les traductions. Lis au nom de ton Seigneur, celui qui a créé l'homme. Lis au nom de ton Seigneur généreux, celui qui a créé l'homme et qui lui a appris par le kalam ou par la plume ce qu'il ignorait. Voilà les tout premiers versets coraniques. Bien sûr, ça va se décliner jusqu'à 6236 sur 23 années lunaires, qui correspondent en gros à 22 ans solaires, de 610 à 632. Alors on imagine que l'homme ne comprend pas ce qui lui arrive, il descend voir son épouse. Ce qui est curieux, paradoxal et anormal pour l'époque, si je puis dire, c'est qu'il était strictement monogame avec Khadija. Alors que la tendance dans les milieux sémitiques, et notamment le milieu arabe de l'époque, et pour ceux qui avaient les moyens, la tendance était plutôt à la polygamie. Donc il va voir Khadija pour lui dire « couvre-moi, couvre-moi » parce qu'il tremblait. Et elle le couvre, et là, il entend toujours la même voix qui est « Ô toi couvert de manteau, lève-toi et prêche » ou « Lève-toi et proclame ». Là, il raconte ce qu'il entend à sa femme et elle lui dit « Bon, moi j'ai un oncle évêque et je vais lui poser la question ». Donc elle va le voir et lui dit « Ah, mais c'est celui qui est annoncé dans les Écritures ». Donc on y revient à cette affaire d'écriture, etc. Et lui, c'est toujours moi qui brode, prenant son courage à deux mains, et il va commencer à prêcher. On ne tient pas compte de ce qu'il raconte. Même avec un peu de commisération, on dit « Mais le pauvre Mahomet, il est devenu fou ». Il veut égaler les poètes, il n'arrive pas à parler, à composer de la prosodie, de la versification. Et pourtant, il était bien, il ne lui manquait rien, il a une épouse qui finalement l'a bien accueilli. Pourquoi est-ce qu'il s'embarrasse à venir, pardonnez-moi le terme, nous enquiquiner par cette histoire de n'adorer qu'un seul Dieu? Parce que les toutes premières sourates parlaient des nécessiteux, des indigents, d'une sorte d'égalité. Maxime Rodinson a cru déceler une sorte de communisme d'avant la lettre. Bon, et puis il n'a pas convaincu grand-chose. Et j'ajoute que sur les 12 premières années, il n'a pas convaincu grand monde. Pour certains, ce n'était peut-être qu'une centaine, 200, voire 300 personnes. C'est très peu. Et puis, quand sa capacité de nuisance devient réelle, il a été mis au banc. Ce qui est terrible pour quelqu'un, et surtout dans une société tribale, où il n'y avait pas de système pénitentiaire, il n'y avait pas de prison. Donc, comme le groupe faisait partie prenante de la tribu, il y avait une solidarité du groupe qui fait que c'est comme ça qu'on était protégé. Alors, quand on est mis au ban et rejeté par son propre, par sa propre tribu et son propre clan, eh bien, on est isolé. Et donc, lui et ceux qui l'avaient suivi, les primo-musulmans, on est dans la proto-histoire de l'islam, qui ne s'appelait pas encore l'islam. Ça ne s'appellera islam que bien plus tard. Ils prêchaient, si je puis dire, le retour à la religion d'Abraham. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans beaucoup de détails. Et alors, il y a de nos jours, avec les termes techniques de nos jours, on aurait dit il était mis sous embargo. On ne lui vendait rien, on n'achetait rien, on ne lui donnait pas à manger. Les tout premiers adeptes, on ne leur donnait pas des filles à épouser, on n'épousait pas leurs filles. Il constituait en quelque sorte un élément comme ça, incongru au sein de la société mécoise. Il va y avoir dans un premier temps une première hégire. Le mot hégire veut dire aussi à la fois fuite, exil, exode, départ, migration, fuite, enfin tout ça à la fois. Par bateau, de l'autre côté de la mer Rouge, en Abyssinie, dirigé par un négus. Le négus est un titre, comme on disait Chosroès pour les Sassanides perses, ou le Basileus pour les Byzantins, il y avait le négus pour l'Abyssinie, chrétien. Je rentre pas dans beaucoup de détails. Ça ne fonctionne pas bien, cette première fuite ou cette première migration. Il va y en avoir encore une autre en 622. Plus exactement, on pense que c'était le 16 juillet 622 ou entre le 24 septembre. Et puis on revient pour que ça commence en une année, le 16 juillet 622. Il va partir dans une oasis plus au nord, qui ne s'appelait pas Médine, mais qui sera rebaptisée Médine. Médine est un navire, la ville du prophète. Mais qui s'appelait Yathrib, c'est une oasis dans laquelle se trouvaient deux tribus arabes et trois tribus juives. Et l'ensemble l'accueille bien dans un premier temps. Là aussi, pour faire vite, je dirais quelques mots sur le Coran et sur les hadiths, les maximes ou les aphorismes du prophète. Première partie de la prédication mohammedienne ou de son ministère apostolique 610-622 à la Mecque. Seconde partie à Médine de 622 à 632, date de sa mort. Et les premiers temps, sur quelques années, il va y avoir une umma, ce qu'on appelle de nos jours la umma, la communauté des croyants, dans laquelle les juifs se trouvaient, parce que, comme croyants, ils faisaient partie d'une même umma. Ce n'est que par la suite que la Oumma va se restreindre uniquement aux musulmans, perçus ou compris cette fois-ci comme, je dis le mot à dessein, comme les mahométans. Parce qu'avant, on pouvait dire musulmans de quiconque qui se remettait à Dieu. Et le croyant, c'est celui qui a cru en la mission mohammedienne, et le musulman, c'était indistinctement celui qui se remettait à Dieu. Qu'il fût juif, qu'il fût chrétien, qu'il fût croyant en la mission mohammedienne, c'était le musulman. Mais après, le terme, techniquement, si je puis dire, va se restreindre uniquement à ceux qui accomplissent les fameux cinq piliers, c'est-à-dire la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage, pour ceux qui le peuvent. Voilà. Donc j'arrête là délibérément pour la vie du prophète et son ministère apostolique. Vraiment quelques mots. Le Coran. Alors, pour les musulmans, le Coran, c'est la parole de Dieu faite livre. Simplement, les mots sont piégés. C'est facile en 6 minutes de dire ça. Mais entre qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qui parle et la parole de Dieu, et ce que nous avons entre deux couvertures dans un ouvrage, il y a une perte en ligne. Parce que du point de vue coranique, donc on est en autoréférence, Dieu parle, D'abord, sa parole est déjà consignée sur une table gardée dans l'empyrée céleste, quelque part dans les cieux. Dans les cieux. Un physicien ne sait pas ce que ça veut dire, cette phraséologie-là. Mais bon, admettons, prenons le discours coranique en tant que tel, prenons-le, ne l'oublions pas, en autoréférence. La parole de Dieu, qui lui est co-naturelle, qui lui est consubstantielle, elle est sur une table gardée, préservée.